Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Carnet de Région, le magazine que vous propose chaque fin de semaine les radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, c'est Radio Lonève qui en a la réalisation. Au sommaire, la mobilisation de la Confédération paysanne à Montpellier contre l'incohérence de la PAC, la politique agricole commune, les oubliés des inondations du 12 septembre dernier dans l'Hérault. Nous parlerons aussi des moustiques avec l'entente interdépartementale de démoustification. La caravane internationale anti-mafia a fait étape en Lozère au lycée Chaptal de Mende. Le marqueton, c'est pour le jeudi 15 octobre. La journée solidaire de l'emploi se déroulera dans 23 villes de la région, dont Carcassonne. Le mouvement rural de l'Hérault, ex-fédération départementale des foyers ruraux, lance le projet Les Cafés de l'éducation populaire. On en parlera. Enfin, on terminera avec la fête de la science. C'est d'actualité jusqu'à ce dimanche avec un exemple, le web documentaire intitulé Atom Hotel. On ouvre ce carnet par cette mobilisation mardi matin, cour Gambetta à Montpellier, à l'appel de la Confédération paysanne du Languedoc-Roussillon. Sur place, de nombreux agriculteurs venus de toute la région pour dénoncer entre autres l'incohérence de la PAC, la politique agricole commune. Alors quel est l'objectif de ce rassemblement? Réponse de Thierry Arcier, porte-parole du syndicat.
D'abord, le but, c'est la sauvegarde de l'élevage en zone méditerranéenne montagne. Et pour que la politique agricole commune et des règles cohérentes pour les éleveurs. Donc, il se trouve que nous sommes en discussion avec l'administration pour la mise en place sur le terrain de ces règles. Et l'année 2015 étant une année charnière pour la PAC, il fallait que les déclarations soient faites conjointement par les paysans, l'administration, et on allait en amont régler d'éventuels problèmes suite à des contrôles. Et là, ça s'est traduit par nous on a des images, on va dire, je fais court, on a des images vues du ciel, et si c'est pas cohérent avec ce qu'on voit sur nos images satellites, c'est sanction directe. Donc ce qu'on veut à court terme, c'est pas de sanction pour les éleveurs, et on va à peu près tous dans notre région être soumis à des pénalités en fait. On n'est pas contre les contrôles, mais on veut pas qu'il y ait de sanctions cette année.
Et dans votre appel à manifester, vous demandez une PAC avec des règles cohérentes pour les éleveurs. Mis à part ce point-là, en quoi pour vous aujourd'hui la politique agricole commune n'est-elle pas cohérente?
Avec l'élevage en zone méditerranéenne, c'est-à-dire si on prend comme référence, je peux prendre une référence française, la prairie normande pour l'élevage, on n'a pas le même type d'élevage ni le même couvert végétal. Donc on ne peut pas valoriser de la même façon ces espaces, de garrigue. C'est pas du tout le même type d'élevage et la référence ne peut pas être la même.
Thierry Arcier, porte-parole de la Confédération paysanne. Alors pour l'heure, le syndicat qui dénonce cette politique de sanction demande au ministère de l'Agriculture d'agir en leur faveur et exige un moratoire. C'était un sujet de Jordi Oumira Tomzak de Radio Pays d'Hérault. Alors que les arrêtés de catastrophe naturelle viennent de paraître ce jeudi au journal officiel pour les inondations des 23 août et 12 septembre dernier dans l'Hérault, c'est l'incompréhension pour deux petites communes, Brignac et Seyras dans le Clermontais. Situées au sud de l'Audève, elles ont subi d'énormes dégâts après la crue de la Lergue le 12 septembre. Alors que les travaux d'urgence sur les berges, sur les châteaux d'eau potable ou chez les particuliers se chiffrent en centaines de milliers d'euros, les collectivités ne pourront pas bénéficier d'aide exceptionnelle de l'État et les particuliers n'auront pas d'aide de leur assurance. On vous propose le témoignage de Pauline et Amandine qui, en début d'année, ont acheté un bâtiment dans la zone de la Planque à Seyras où elles ont fait un très gros investissement pour y accueillir leur activité et créer l'espace danse, un espace aujourd'hui complètement détruit.
Donc nous avions créé notre école de danse depuis 2013, l'espace danse à Seyras. On avait réalisé ce projet-là tel qu'on le rêvait. Et la crue du 12 septembre a tout emporté. Il ne reste plus que les murs, un toit, mais dedans c'est complètement dévasté. Depuis janvier, on en était devenu propriétaire, donc concrétisation d'un rêve. Et tout s'est écroulé. 4 heures avant, j'étais encore en cours avec 40 élèves qui auraient pu évidemment périr dans ce drame. Donc Dieu merci, ça n'est pas arrivé. Voilà, donc on a eu la chance d'être hébergé dans l'ancienne école à Nébian. Donc on continue nos activités. Finalement, on a repris très rapidement. Mais c'est vrai qu'on espérait que cet état de catastrophe naturelle soit déclaré parce que sans ça, les assurances suivront beaucoup moins et que il y a aussi un gros souci financier, financier pour nous. Et malheureusement, eh ben, ce n'est pas le cas. Et on a appris ce matin que, nous n'étions, que la commune de Sayras n'était pas déclarée en catastrophe naturelle.
C'est vraiment l'incompréhension aujourd'hui ?
L'incompréhension complète, parce que quand même tout le long de la Lergue, on peut encore voir aujourd'hui quand on fait le trajet, tout est vraiment, vraiment dévasté. Et que là, ce ne soit pas reconnu, c'était véritablement un deuxième coup dur.
Voilà, la solidarité s'est organisée, comment elle s'est matérialisée après justement cette catastrophe ?
Alors la solidarité s'est organisée très vite, ça a été un bon point et qui nous a permis de continuer de nous réchauffer le cœur, c'est que tout de suite nos adhérents, étant tellement attachés à ce lieu, ont voulu tout de suite d'une nous aider mais aussi pouvoir redémarrer l'année scolaire qui avait commencé depuis une semaine. Donc nous avons reçu beaucoup d'aides pour tout déblayer, tout nettoyer, récupérer ce qu'il était. Des aides comme la mairie de Nébian qui nous a relogés, des gens comme Prestasen qui nous a prêté du matériel, d'autres personnes sortir qui nous a permis un article comme ça gratuitement. Et ça continue encore puisqu'il y a même un appel aux dons qui a été lancé par deux des élèves qui ont créé une cagnotte sur internet auquel beaucoup de monde participe et on remercie et on remerciera jamais assez tout le monde. Et grâce à ça, on a un petit peu de courage et de force pour avancer et continuer ce qu'on avait entamé il y a 3 ans.
Moi je dirais on avait à nouveau un petit peu de force pour essayer de continuer et c'est vrai que là ce matin en lisant le journal officiel, en voyant qu'on ne fait pas partie des communes, là c'est vraiment un très gros coup, on se demande comment continuer parce qu'on ne voit pas la suite, on ne voit pas d'avenir, on a un crédit très important sur le dos, normal vu l'aménagement qu'on avait mis en place. Voilà, le Facebook Espace Danse permet d'accéder aux informations, de nous suivre un petit peu, de voir effectivement cette cagnotte. Et puis de suivre la suite des événements. Les cours continuent, mais alors là, nous, on se demande comment on va faire pour s'en sortir, quoi.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Focus aujourd'hui sur l'EID, l'entente interdépartementale de démoustication, une collectivité territoriale financée par 6 départements et la région Languedoc-Roussillon. Son objectif depuis 1958, assurer le contrôle de la nuisance sur le littoral. Mais ce n'est pas tout. Depuis quelques années, elle agit également dans le domaine de la santé publique du fait de l'introduction du moustique tigre. Alors aujourd'hui justement, où en est-on de la démoustification sur le département de l'Hérault ? Réponse de Dominique Gendre, elle est responsable du pôle stratégie opérationnelle de démoustication.
Alors au niveau des moustications, donc cette année, donc on a une année quand même relativement, on va dire, pluvieuse, hein, puisqu'en fait, on a une problématique à la fois des moustications rurales et à la fois des moustications au milieu urbain. Et pour ce qui concerne le milieu rural, en fait, les moustiques apparaissent en fonction des mises en eau. Donc dès qu'il y a une pluie, dès qu'il y a une irrigation, dès qu'il y a la mer qui monte, etc., on a apparition de larves dans les milieux. À ce moment-là, donc on procède au traitement nécessaire, soit par avion dans 75% des situations, soit par engin terrestre. Et à ce jour, depuis le début de l'année, on a traité plus de 12 000 hectares, en fait, sur l'ensemble de l'Hérault, de surface de traitement contre les moustiques dits ruraux. Et pour ce qui concerne le milieu urbain, où on va trouver maintenant de plus en plus de moustiques tigres installés, on est à plus de 13 000 gîtes urbains traités à ce jour dans le département de l'Hérault.
13 000 gîtes urbains traités, mais cette année, il est important de souligner que les fortes pluies ont favorisé la prolifération du moustique, en tout cas bien plus que les années précédentes, puisqu'on n'avait pas vu de telles mises en eau depuis 1999. Heureusement, l'EID propose une méthode efficace pour lutter contre l'insecte.
Alors, pour ce qui concerne, j'allais dire, les espèces classiques, la biologie de ces espèces-là fait qu'on peut procéder à des traitements insecticides de manière quasi exhaustive. Donc avec parfois, c'est vrai, du fait qu'on utilise un produit biologique, hein, le BTI, qui peut avoir une efficacité aléatoire dans le temps, quelques petits pics de nuisance résiduelles, mais qui sont toutefois maîtrisés. Son moustique tigre, c'est différent, parce que le moustique tigre, il a une biologie spécifique, c'est-à-dire qu'il aime les gîtes de taille réduite, type coupelle, type arrosoir, type pot de fleurs qui traîne ou un jouet d'enfant, etc. Et 80% des gîtes sont chez les particuliers. Donc ça veut dire que techniquement, on ne peut pas envisager dépendre, du BTI de façon exhaustive, puisque la probabilité que le produit arrive à la larve et que la larve ingère le produit est très faible. Et donc la meilleure méthode pour lutter contre le moustique tigre, c'est ce qu'on appelle la participation communautaire, c'est-à-dire soyez sec avec le moustique, c'est vider les eaux stagnantes et éviter que tout réceptacle d'eau garde l'eau plus de 4 jours, parce que le cycle du moustique, effectivement, la larve, elle va durer à peu près 4 jours avant de devenir adulte. Et donc, en vidant les eaux ou en mettant du sable dans les coupelles ou en étanchifiant avec des moustiquaires tout ce qui est récupérateur d'eau pluviale, par exemple, ça évite aux moustiques-tigres son installation dans ce type de gîte.
Pour en savoir plus sur ce nuisible, rendez-vous sur le site moustiquetigre.org. La semaine dernière, à l'invitation de la Ligue de l'Enseignement, la Caravana Internationale et Antimafia a fait étape pour la première fois en Lozère, précisément au lycée Chaptal de Mende. Depuis 20 ans, cette caravane Antimafia sillonne l'Italie et le reste de l'Europe pour expliquer le fonctionnement des mafias et donner des arguments pour la contrer. Un avocat, une éducatrice et un informaticien ont fait prendre conscience à une cinquantaine de lycéens étudiant l'italien de toutes les idées préconçues autour de la mafia, car il est vrai que l'on a souvent l'image du mafieux que l'on voit dans les films, un mythe qu'il faut s'atteler à déconstruire. Écoutez Alessandro Cobianco, coordinateur de cette caravane.
Purtroppo ci sono molti film che raccontano la mafia come se fosse un mito.
Oui, il démonte le mythe en indiquant que les mafieux font une vie brève et non pas une vie heureuse, contrairement à ce qui peut apparaître dans le mythe. Alors la mafia est moins voyante et elle tire moins, mais c'est plus préoccupant parce que quand on ne voit pas, ça fait davantage peur. Donc dans le sud, ils sont très bien accueillis par les jeunes, dans le nord beaucoup moins, avec encore beaucoup de distance. Il dit qu'il est né, lui, avec les bombes, et qu'en 20 ans, il y a eu des progrès, et il pense qu'un jour, on réussira à la combattre. Il parle aussi de la manière dont les biens confisqués... La loi italienne indique que la mafia donc, est un crime, donc ils ont pris des mesures, les biens sont confisqués et attribués à des associations. Et le film qui a été présenté aux élèves, à travers par un groupe musical qui a fait le tour de l'Italie, toutes les régions d'Italie, sur les biens confisqués à la mafia. Et leur but, c'est qu'en Europe, les différents pays d'Europe prennent la même loi. C'est, puisque pour les gangsters et la mafia, c'est l'argent qui compte et les biens, on leur confisque les biens. C'est ça, c'est ce qu'ils présentent, qu'ils montrent. C'est réel, ça. C'est réel.
Strumenti per battere la mafia, quindi siamo ottimisti, perché finirà, la mafia finirà.
Et la caravane poursuit son chemin, elle devrait revenir prochainement en France et faire étape cette fois à Marseille. C'était un sujet de Ludovic Terol de 48 FM. Chaque troisième jeudi d'octobre a lieu le Marqueton, une action originale et innovante pour les demandeurs d'emploi en Languedoc-Roussillon. Rassembler des demandeurs par équipe de trois pour aller à la recherche de propositions d'emploi dans les entreprises. Cette démarche collective génère une réelle remotivation des participants. Jacques Faure est délégué régional du Comider qui organise l'événement. Il nous en dit plus au micro de RCF Pays d'Aude.
Alors, je suis Jacques Faure, responsable au Comider, le comité pour le développement économique régional qui est basé à Montpellier et qui travaille dans toutes les villes de la région pour lancer l'opération du Marqueton le 15 octobre, jeudi prochain. Le but de la manœuvre, c'est que nos marquetoniens, ce sont des demandeurs d'emploi en recherche. C'est plus facile de faire un démarchage quand on est trois que quand on est tout seul. On est bien mieux accueilli d'ailleurs, par le personnel, par le secrétaire, par le directeur. Et on peut exposer la démarche et cette recherche d'emploi qui est toujours très appréciée. Alors il y a une formation qu'on acquiert et une assurance qu'on acquiert en faisant ce démarchage. Voilà, le Comider ensuite a la charge de rassembler tout cela sur un site internet, et ce qui permet aux 21 villes où on va avoir, comme les années précédentes, 1500 personnes peut-être qui ont participé à l'opération, la possibilité de regarder les annonces dans d'autres villes. Mais c'est réservé aux marquetoniens et on leur donne un mot de passe pour pouvoir avoir accès à ces annonces.
Et à Carcassonne, les inscriptions pour le Marqueton ont lieu à la salle du Dôme, côté billetterie, à partir du 12 octobre, comme l'explique M. Forêt, président de l'association Agir ABCD, qui porte localement l'organisation.
On procède aux inscriptions, et ensuite, en fonction des inscriptions, on organise les tables, l'accueil pour le jour du Marqueton. Le Marqueton va se faire donc au Dôme, à la billetterie. Le matin, les marquetoniens se présentent en groupe, puisqu'ils sont à peu près une centaine de personnes. On forme les groupes de 3-4 personnes en fonction du nombre de participants. Puis, on leur attribue une zone géographique, on leur explique comment procéder, on leur donne des documents pour se présenter au niveau du chef d'entreprise, en particulier une lettre de la région. Et toute la journée, ils se prospectent dans leur secteur géographique qui leur a été attribué. Le soir, quand ils ont terminé leur prospection, en rentrant dans toutes les entreprises, les commerces, les études d'avocats, absolument tout. Ils ramènent évidemment les offres d'emploi qu'ils ont récoltées, pas pour eux-mêmes, mais pour l'ensemble des marquetoniens. À ce moment-là, notre équipe se met à traiter toutes ces offres d'emploi en partenariat avec Pôle emploi, puis sur un tableau général, par branche, nous affichons toutes les offres d'emploi et les marquetoniens peuvent à ce moment-là regarder pour eux-mêmes si une offre d'emploi correspond. S'ils en ont une qui leur correspond, ils se présentent le plus rapidement possible à l'entreprise pour postuler.
Le Marqueton à Carcassonne, en reportage de Nathalie Dessauce pour RCF Pays d'Aude.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Le mouvement rural de l'Hérault, ex-fédération départementale des foyers ruraux, était à l'Odève samedi dernier après-midi pour libérer la parole pour agir, où tout le monde a pu s'exprimer sous différentes formes avant des conférences, des échanges. On revient sur cette journée avec, pour les organisateurs, le vice-président du mouvement rural, ancienne fédération départementale des foyers ruraux, Michel Père.
Ça correspond à nos attentes, c'est-à-dire à ce qu'on avait mis, aux espoirs qu'on avait mis. À savoir qu'on a réussi à travailler à travers la création artistique amateur et professionnelle sur une expression qui recouvre un petit peu le sujet, c'est-à-dire celui de l'éducation populaire. On a eu une conférence qui a provoqué un petit débat intéressant auquel se sont mêlés les élus. Donc ça, c'est bien parce que c'est l'essence de ce qu'on veut faire, provoquer le débat, provoquer le fait que la pensée se développe sur certains sujets qui sont un peu chaud, comme on dit maintenant, parce qu'on a parlé de démocratie, du rôle des élus. Ma foi, on lance ces débats-là en espérant qu'ils vont, bien sûr, essaimer sur tout le territoire sur lequel on travaille.
Voilà. C'est vrai que l'idée, c'est qu'ils soient repris, que cette parole se diffuse au travers du mouvement rural, des foyers ruraux, mais peut-être pas que, avec ces cafés de l'éducation populaire. Hein, donc on l'évoquait dans la semaine, c'est aussi là un point de départ maintenant pour autre chose.
Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est celle de ces cafés de l'éducation populaire et qui doivent, si on reste fidèle à ce qu'est l'éducation populaire, émaner du terrain pour que les gens se prennent en charge eux-mêmes. Éducation populaire telle qu'elle a été définie par Christian Morel, si tant est qu'on puisse avoir une seule définition, puisque lui-même l'a dit. Mais déjà, on sait qu'il y en a trois qui se profilent, ce qui correspond, comme je disais au départ, aux attentes qu'on avait.
Et ces cafés de l'éducation populaire, trois sont déjà programmés au Quélard, à Popiang et puis à Cressan dans le Biterrois. Le premier aura lieu au Quélard sur le Causse du Larzac. Ce sera le vendredi 13 novembre, ce que nous explique Bernard Vinel.
Oui, alors donc la date, c'est le 13 novembre, c'est un vendredi. Le thème, à 18h30, le thème, ce sera le TAFTA, donc le traité transatlantique sur la circulation des marchandises. Il se trouve que c'est une chose que l'on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication et cela est volontaire. Et donc on nous expliquera quels sont les enjeux et le plus objectivement possible. Et voilà, donc le but c'est ça, avec des intervenants comme José Bové, comme des gens de la Confédération Paysanne, comme Attac. Probablement, enfin il a manifesté le désir, mais est-ce que son calendrier lui permettra, je ne sais pas. Mais M. Touloussier, donc, qui est le maire de Vigan, est vraisemblablement notre député Frédéric Roig. Nous ne sommes pas les tenants de l'éducation populaire. Il y en a bien d'autres qui travaillent sur d'autres choses. Mais bon, l'idée, nous, sur le milieu rural, nous la poursuivons. Jusqu'à maintenant, elle a été mise sous le coude un peu parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Mais on s'aperçoit, d'après les événements qui, depuis des années, nous bousculent un peu les idées, qu'il faut repartir sur ces fondamentaux. Donc c'est ce que nous faisons.
Bernard Vinel pour l'association de secteur des foyers ruraux du Quélard. On termine ce carnet de région avec la fête de la science qui a démarré le 7 octobre et continue d'illuminer notre savoir officiellement tout au long de ce week-end et jusqu'à dimanche. Pendant ces quelques jours, des événements sont organisés partout en France pour intéresser petits et grands à toutes les sciences. On fait le point ici sur l'un de ces événements, le lancement du web documentaire intitulé Atome Hotel, un sujet de Liliane Drey et Gilles Geoffrey pour Radio Aviva.
Atome Hôtel, c'est le nom d'un web documentaire de culture scientifique dédié au monde des atomes, mis en ligne à l'occasion de la fête de la science sur les plateformes de France TV Éducation et Univers Sciences. C'est l'université de Montpellier qui a porté ce projet de grande ampleur. L'idée est de revisiter et dépoussiérer le fameux tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Ce fameux classement des éléments comme le lithium, l'iode ou le plomb, comme son nom l'indique. Atome Hôtel prend la forme d'un hôtel, virtuel de 115 chambres. C'est Thierry Brassac, auteur du projet Atome Hôtel, qui nous en explique la teneur.
Dans toutes les cours de 4e ou de 3e ou de collège, il y a ce fameux tableau périodique des éléments, mais qui est un peu poussiéreux et un peu austère. Donc nous, on a essayé de le rendre un peu plus sympa et de le numériser et de faire un environnement dans lequel on peut trouver donc 114 chambres qui correspondent aux 114 atomes connus aujourd'hui. Et dans ces chambres, on trouve des petites pépites multimédia qui vont montrer justement un petit peu le quotidien, enfin la réalité de ces atomes et les personnifier.
Thierry Brassac, ce projet va permettre d'explorer le monde des atomes, mais je crois que vous prévoyez aussi d'aller à la rencontre des scientifiques français ou en Europe.
Alors ça a déjà été fait, donc c'est-à-dire qu'on a eu le financement suffisant pour faire 25 clips dans lesquels on a demandé aux chercheurs de France et d'Europe effectivement quels étaient leurs atomes préférés, et on a fait des petits clips avec un chercheur, un atome, pour montrer un petit peu les relations qu'ils entretenaient ensemble.
Le webdoc est donc peuplé de pépites multimédia permettant d'explorer l'univers du monde des atomes en allant à la rencontre des scientifiques de France et d'Europe. Chercheurs et ingénieurs y dévoilent leur complicité avec les atomes. Ils racontent les fascinantes histoires de certains matériaux que nous utilisons, d'organismes que nous côtoyons, de la planète que nous habitons ou encore de l'univers que nous contemplons. Une formule originale qui pourrait convaincre le grand public. Muriel Gage est vice-présidente de l'Université de Montpellier. Elle nous explique les avantages qu'offre cette présentation originale.
C'est donc un web documentaire. Donc déjà, c'est un outil particulier à partir du numérique, donc accessible à tout le monde, on peut dire, d'un simple clic. Donc on peut imaginer que c'est accessible à des jeunes publics, à un grand public, mais aussi à un public, disons, d'enseignants, dont on peut faire un usage particulier dans les classes, à la condition de l'accompagner d'une pédagogie particulière, dont les clips vidéo qui sont montrés ici servirait d'illustration, de support, de questionnement, etc., etc. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement? Je crois que c'est une façon ludique de rentrer dans cette classification de Mendeleïev, qui fait partie notamment des programmes scolaires. Alors de manière ludique, parce qu'on rentre plutôt dans l'atome et dans sa connaissance par les usages, par les pratiques. L'atome, à quoi ça me sert, moi, scientifique, dans ma vie quotidienne, dans mon laboratoire, sur le terrain? Et du coup, on comprend mieux, me semble-t-il, l'implication, on comprend mieux les usages, on comprend mieux ce qu'est l'atome et à quoi il sert dans la vie quotidienne.
Muriel Gage, vice-présidente de l'Université de Montpellier, répondait à Liliane Drey. Le web documentaire Atome Hôtel est donc visible dès aujourd'hui sur le site education.francetv.fr ou sur universcience.tv. Enfin, sachez qu'une saison 2 est déjà en cours de préparation et que vous pouvez aider à la financer en vous rendant sur le site de crowdfunding KissKiss Bank Bank et en tapant Atome Hôtel.
La fête de la science continue jusqu'à ce dimanche 11 octobre en France et en Languedoc-Roussillon. Vous retrouverez tous les événements organisés près de chez vous à cette occasion sur le site fetedelascience.fr.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et voilà pour ce nouveau numéro du Carnet de Région, le magazine d'actualité que vous proposent les radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Cette semaine, c'était Radio Lodève qui en avait la rédaction. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce nouveau numéro. Merci à toutes celles et ceux également sur leurs radios respectives qui diffusent ce Carnet de Région. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, justement, même jour, même heure. À très bientôt.